sensibiliser, informer. Bienvenue à l'Académie. Le podcast que vous écoutez a été réalisé par le Mouvement des entreprises de France et réalisé à partir d'une session de sensibilisation. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à toutes et à tous. Vous êtes plus de 450 inscrits pour ce nouveau webinaire organisé avec nos collègues de l'Académie MEDEF. Voilà. Donc on va être indulgent avec Laure qui est notre nouvelle collègue. Voilà.
Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce webinaire de l'Académie. Donc moi je suis Laure Renevier, je viens d'arriver il y a un petit peu plus d'un mois à l'Académie. Donc c'est mon premier webinaire et j'en suis ravie avec vous. Donc l'Académie c'est l'organisme de formation intégré au MEDEF qui participe au déploiement des informations stratégiques auprès des entreprises et des adhérents. Et donc aujourd'hui, on est réunis pour parler d'éco-conception, qui manifestement est un sujet qui passionne, puisque comme disait Sébastien, on a plus de 450 inscrits, donc on est vraiment très contents. Et pour des raisons de confort d'écoute, on a coupé tous vos micros, donc n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions au moment des questions-réponses, ou à lever la main pour qu'on puisse vous ouvrir le micro.
Voilà, en tout cas, nous, en effet, on est ravis que ce sujet mobilise beaucoup. Il faut dire qu'il est d'actualité, hein, puisque nous avons eu la publication du règlement relatif à l'éco-conception cet été. Et donc, on est ravis aujourd'hui d'accueillir à la fois le CGDD, le pôle national d'éco-conception, ainsi que deux représentants d'entreprise, donc Saint-Gobain, pardon, et Promode, qui interviendront pour vous parler de ce sujet. Et je vais, sans plus attendre, laisser la parole à monsieur Drissi du CGDD qui va nous parler de ce nouveau règlement. Et c'est moi qui passe les slides. Monsieur Drissi, la parole est à vous.
Bonjour à tous. Donc, c'est Ami Drissi. Je suis chargé de mission économie circulaire, donc au Commissariat général pour le développement durable. Ma direction est donc pilote de la mise en œuvre du règlement relatif à l'éco-conception pour des produits durables, ESPR. J'ai beaucoup utilisé le sigle ESPR tout au long de la présentation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais vous présenter ce règlement qui est paru au journal officiel, donc à l'été. Il prévoit trois objectifs. Imposer le respect de performances environnementales aux produits qui sont mis sur le marché européen, quel que soit leur lieu de fabrication. Donc, c'est vraiment le socle de ce règlement. En outre, il prévoit un outil qui va avoir vocation à se déployer grâce à ce règlement et dans d'autres réglementations, qui est le passeport produit digital. Donc vous avez déjà probablement entendu parler. C'est un outil majeur de traçabilité au sein de la chaîne de valeur des produits et destination des consommateurs. Et le troisième volet de ce règlement est la lutte contre la destruction des produits de consommation invendus. Donc, on ne parlera pas forcément rapidement dans cette présentation. Ce règlement remplacera progressivement la directive éco-design de 1925. Et ce qui est important, c'est que c'est un règlement cadre. Il prévoit quelques dispositions définies dans ce règlement, mais il va y avoir une multitude d'actes secondaires pour produire ces effets. Diapositive suivante. Merci. Donc, vous présentez rapidement les objectifs et le champ du règlement. L'idée, c'est d'offrir un cadre réglementaire pour des produits plus durables, avec la définition des exigences d'éco-conception pour améliorer la durabilité environnementale des produits, avec l'objectif d'en faire des produits durables la norme. Concrètement, comment ça va se passer? Il va y avoir une interdiction de mise sur le marché des produits les moins disants sur le plan environnemental. Mais il faut retenir qu'il y a des objectifs et des manières d'arriver à améliorer la durabilité des produits, à plusieurs points, comme une meilleure information des consommateurs, des produits qui seront plus durables, plus fiables, plus réparables, plus recyclables, réduire l'empreinte environnementale et l'empreinte carbone, avoir plus de contenu recyclé dans les produits. Voilà, plein de manières de mieux éco-concevoir les produits au sens du règlement. Un des points de ce règlement, c'est qu'il va être pris en compte de façon systématique tous les aspects des produits, on présentera plus tard, à travers deux types d'exigences, des exigences de performance et des exigences d'information. Je vous ai présenté un peu l'aspect environnemental des produits, mais à la fin, je vais vous présenter plutôt l'aspect économique et industriel. Ce cadre réglementaire a pour aussi objectif de stimuler l'offre et la demande en produits durables. Plus de produits durables produits, mais aussi les consommateurs vont, eux, être accompagnés pour orienter leurs achats vers ces produits-là. Concrètement, l'idée, c'est d'harmoniser les règles de concurrence au niveau européen, faire en sorte qu'il y ait un sens global, mieux diffuser la formation au sein de la chaîne de valeur sur ces produits-là grâce au passeport produit. Tout cela va permettre d'améliorer la compétitivité européenne sur certains secteurs qui seront visés, avec, donc, un dernier point, plus d'obligations relatives au marché, un cadre réglementaire qui sera prêt. Et donc là, quatre trois données en tout cas qui datent un petit peu, donc on espère qu'elles vont être réactualisées. 75% des entreprises ont intégré des stratégies de co-conception, ont intégré l'éco-conception dans leur stratégie. 21% appliquent la démarche d'éco-conception à un niveau généralisé dans leur portefeuille de produits. Et 40% des entreprises éco-concevoir des produits et des services, c'est un moyen d'anticiper les futures réglementations. Donc on espère que ces chiffres vont progresser au fil du temps, parce qu'il y a un vrai intérêt pour les entreprises d'intégrer ces concepts-là d'éco-conception pour potentiellement améliorer leur productivité, leur chiffre d'affaires. Il y a un petit chiffre, hein, s'il vous plaît. L'ESPR s'appliquera de façon très large. Elle peut s'appliquer aux produits neufs, remanufacturés, reconditionnés, et peut s'appliquer à tous les produits intermédiaires et courants, sauf ceux qui sont listés dans ce tableau, donc certaines catégories, notamment les produits alimentaires. En gros, tous les produits industriels manufacturés sont susceptibles d'être visés par ce règlement. Mais ce se fera par secteur. Donc, c'est vraiment une chose qu'il faut retenir, c'est que ce sera les règles vigilantes vont être définies groupe de produits par groupe de produits. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au cœur du règlement, ce sont les exigences d'éco-conception. C'est vraiment ça, là, le plus important. C'est vraiment ça qui est le socle, avec autour des sujets importants, mais connexes, comme le programme de travail dont on va parler, la destruction des invendus, la manière de procéder, donc le champ d'application, aspect et paramètres des produits, exigences de performance, exigences d'information. Voilà comment à peu près est construit le règlement. Suivante. Je vais parler rapidement du programme de travail, qui est vraiment qui présente un enjeu particulier, c'est qu'il ne va pas être possible de traiter tous les groupes de produits en même temps. Vous imaginez que, bien sûr, c'est techniquement pas faisable, et puis d'un point de vue réglementaire, ce sera très compliqué potentiellement pour les entreprises. Un premier programme de travail va être établi par la Commission. Il doit l'être avant le 18 avril 2025, et l'idée, c'est de cibler des groupes de produits prioritaires pour l'établissement d'exigences de co-conception, mais aussi pour la destruction des invendus. Ce programme de travail sera élaboré par la Commission et sera soumis à consultation des parties prenantes, ou entreprises, et les États membres. Il va définir donc les priorités, c'est-à-dire on ne liste pas les produits qui seront réglementés, mais qui vont faire l'objet de travaux potentiels en vue d'une réglementation. Ce programme de travail sera bien sûr remis à jour régulièrement, au regard des travaux qui seront effectués et puis de nouveaux produits de priorité qui pourraient être identifiés. Il y a besoin d'une priorisation. On ne va pas tout faire en même temps. Et donc, la Commission va mener une analyse sur la base de critères comme la possibilité d'améliorer les produits sans coût disproportionné, la distribution des coûts sur la chaîne de valeur, la contribution aux objectifs de l'Union en matière d'environnement et de climat, bien sûr important. L'idée, c'est de réduire l'impact environnemental de certains groupes de produits. Donc, on va bien sûr s'intéresser potentiellement aux produits pour lesquels sont identifiés un impact environnemental plus important. Mais aussi, on va s'intéresser aux produits qui sont le plus vendus. Bien sûr, c'est des groupes de produits où il y a des volumes de vente, bien sûr, plus importants. Et le dernier point, c'est que même si on définit un jour des exigences, ils peuvent être améliorés au fur et à mesure du temps, au regard des évolutions technologiques. C'est ce qui se fait déjà dans le cadre de la directive. Rapidement présenter les exigences d'éco-conception. Donc, les exigences vont se décliner dans un programme de travail, donc deux niveaux. Un qui concernera donc les exigences d'éco-conception avec 12 groupes de produits cités. Donc, voilà les groupes qui sont identifiés dans le règlement. Il n'est pas dit qu'ils seront dans le premier travail, mais qu'ils sont identifiés dans le règlement. Et aussi un programme de travail en matière d'art vendu. Et donc, ce qui est déjà mentionné, ce sont les textiles, donc il y a un accès du règlement, mais les équipements électriques et électroniques sont envisagés, seront à envisager par la Commission. Il n'y a rien d'écrit aujourd'hui dans le programme de travail, mais ça le fera ultérieurement. C'est positif, je suppose. Vous savez, j'ai un petit bug dans ma présentation, je suis navré. Une diversité d'aspects à considérer. Voici, là, vous avez sur ces diapositives l'ensemble des aspects, des produits qui seront à considérer pour établir des exigences d'éco-conception. Donc, on les essaie de les classer en trois catégories, celles qui sont propres aux produits, donc en vert foncé, la durabilité, l'entretien et reconditionnement des produits, fiabilité, possibilité de réemploi, réparabilité, possibilité d'amélioration. Après, vous avez des aspects qui seront à considérer, sont plutôt relatifs aux ressources. L'eau, l'énergie, la génération de déchets, l'empreinte environnementale, y compris l'empreinte carbone. Au sens du règlement, l'empreinte carbone est une déclinaison de l'empreinte environnementale, mais aussi le contenu recyclé. Et enfin, trois aspects sont à considérer, donc c'est les possibilités de recyclage, remanufacturage et valorisation des matériaux. Les exigences, donc comme je l'ai dit, les exigences d'éco-conception peuvent être de deux catégories. Les exigences d'information. D'une part, il y aura toute une liste d'informations qui pourront figurer sur les produits, qui devront figurer sur les produits. Et le point le plus important est le passeport produit. C'est vraiment l'innovation principale de ce règlement, c'est que sur les produits qui seront visés par un acte délégué, le passeport produit devra figurer. Devra figurer également sur les exigences d'information la présence de substances préoccupantes. Donc, une liste sera définie par les guides. Mais figurera aussi sur le produit les informations sur la performance, des informations utiles au consommateur, sur l'installation, l'utilisation, l'entretien, la réparation du produit, mais également des informations qui seront utiles aux installations de traitement de déchets, comme sur le démontage, le réemploi, le reconditionnement. Ça, c'est des informations qui, généralement, accompagnent le produit, mais l'acte délégué définira le cadre des informations qui seront nécessaires. D'autre part, des exigences de performance pourront figurer sur les produits. Ce sont des exigences qui seront définies au cas par cas, pour chaque groupe de produits. Ces exigences pourront être quantitatives ou non quantitatives, et au sens quantitatif, certains paramètres auront une exigence un peu minimale. Un seuil pour être précisé pour un paramètre ou une combinaison de paramètres. Et c'est là maintenant qu'on retrouve, donc c'est mentionné dans le règlement, les scores agrégés comme l'indice de durabilité ou l'indice de réparabilité. Ça peut être une exigence quantitative, c'est-à-dire une exigence minimale au regard de ces indices. Ça, ce sont des exigences qui sont définies par groupe de produits. Mais il y aura aussi potentiellement des exigences qui seront applicables à plusieurs groupes de produits, puisqu'en fait, des exigences horizontales. Et donc, pour les groupes de produits qui ont des similarités, on pourra établir des exigences qui leur seront applicables, qui seront définies pour plusieurs groupes de produits en même temps. Quelques mots sur le passeport produit, qui est vraiment l'innovation principale de ce règlement. Donc, c'est un outil d'information qui est important pour tous les acteurs de la chaîne de valeur, pour améliorer la traçabilité des produits. Donc, il y a deux intérêts, la communication sans la chaîne d'approvisionnement, mais aussi la communication à destination du consommateur. Aujourd'hui, il est prévu dans le règlement SPR, mais aussi dans le règlement matrice, qui est une émission un peu différente, mais il sera utilisé dans d'autres réglementations. C'est le cas, donc, il est mentionné dans le règlement sur les produits de construction, dans le règlement. Ce que vous allez voir, c'est qu'il y a des travaux de normalisation qui sont en cours. Parce que derrière le passeport, il y a toute une architecture à construire, des exigences précises sur l'interopérabilité. Et donc, tout ce système-là fait l'objet dans ce monde de travaux de normalisation qui ont lieu au niveau européen. Et un groupe miroir a été mis en place au niveau français à l'ACMA. Le passeport produit, il pourra se présenter sous plein de formes différentes. Sous forme de filigrane, de QR code ou sous d'autres formats accessibles. Trois objectifs, mettre à disposition des informations pour tous les acteurs au sein de la chaîne de valeur, améliorer la traçabilité des produits, mais aussi aider les consommateurs à faire des choix éclairés. Le passeport produit ne sera obligatoire que si un acte délégué pour un groupe de produits le prévoit. Le passeport, par exemple, si on a un acte délégué pour les textiles, c'est seulement le passeport produit sera exigible pour les textiles. Il faut qu'il y ait un acte exactement qui le prévoit. Pour vous présenter rapidement les prochaines étapes dans l'adoption des actes secondaires, on va essayer de refaire, j'essaie de refaire tout l'histoire. Le règlement, il a été publié au fin 2024. Il est rentré en vigueur en juillet. On s'attend donc là au troisième trimestre, probablement quatrième, maintenant parce que la Commission a un peu de retard, un appel à candidature pour le forum éco-conception. C'est l'enceinte de discussion des différents textes réglementaires. Il y aura un appel à candidature qui sera formulé par la Commission, où laquelle donc les parties prenantes seront invitées à candidater pour pouvoir participer. Cette enceinte sera potentiellement horizontale, mais il y aura des sous-groupes sectoriels qui pourront éventuellement être créés pour pouvoir participer. Le forum devrait se réunir en fin d'année ou en début d'année 2025, et donc avec pour première mission d'adopter le programme de travail. Si on prend la branche du haut, ce que l'on sait, c'est que les travaux ont commencé pour les textiles. Il est pour l'instant, potentiellement du retard, prévu une étude du GRC est en cours d'élaboration. Donc, le GRC, c'est l'organe scientifique de la Commission qui donc produit des études techniques. On s'attend que pour le groupe de textiles, des mesures soient proposées courant 2025 pour discussion en vue d'une adoption un petit peu plus tard, en fin 2025, début 2026. Si on prend la branche du milieu, qui concerne les sujets plus transversaux, on sait que deux sujets vont devoir être absolument développés par la Commission. C'est le premier, la destruction des invendus. Il y a des délais à respecter, il y a besoin de préciser certaines informations, donc soit par acte délégué, soit par acte d'exécution, pour que les dispositions soient complètement applicables. Au courant 2025, on pense que les travaux, il y aura, donc on s'attend aux actes relatifs à la destruction des invendus. Et fin 2025, il y aura les mêmes travaux, des travaux similaires qui seront menés pour le passeport produit, pour définir les exigences qui seront applicables. Pour ces sujets-là, qui sont vraiment très importants, qui sont vraiment des sujets fondateurs du règlement, il y aura des consultations publiques. La Commission mènera forcément des consultations pour faire en sorte que les mesures soient les plus facilement applicables. En parallèle des travaux sur les textiles, les travaux commencent juste sur le secteur du fer et de l'acier, donc avec un petit peu de décalage, et on s'attend à ce que des mesures soient proposées début 2026. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'au fur et à mesure, donc, des travaux vont démarrer sur d'autres groupes de produits. Ça se fera sur une initiative de la Commission, mais au regard du programme de travail qui sera adopté. Et là, peut-être pour vous dire plus globalement comment en fait ça va se passer, groupe de produits par groupe de produits. Les travaux vont toujours se dérouler en deux phases. Une phase technique, une étude doit être produite. Ça se fera toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'une étude sera lancée, il y aura des appels à contributions, des consultations publiques. Et là, c'est ce point-là qu'on veut beaucoup insister. Le moment clé, c'est le moment où les entreprises doivent participer. Donc, les différentes directions ministérielles seront là pour relayer les informations, pour mobiliser différents secteurs concernés. Et il est important que les entreprises contribuent. C'est ce moment-là où les données doivent être partagées par les différents secteurs auprès de la Commission pour que les études soient réalisées et soient prises en compte vos intérêts, vos préoccupations. C'est vraiment le moment le plus important du processus. Car lorsque une étude est réalisée, la Commission se sert de cette étude pour établir son règlement. Dans la phase technique, il y a plusieurs réunions qui sont prévues. C'est important aussi que vous puissiez participer à ces réunions-là pour avoir toutes ces informations, pour les fédérations, les relayer aussi auprès de vos adhérents. Mais voilà, on compte sur la mobilisation des entreprises dans cette phase-là importante du processus de définition de ces licences. La deuxième phase, elle est moins technique, elle est plus réglementaire. C'est-à-dire que la commission va élaborer un texte qui sera présenté au forum. Il y aura donc tout un processus, donc il y aura des réunions, des discussions, le texte sera amendé, et ensuite l'acte délégué sera adopté, publié, et le règlement prévoit qu'il y a au moins 18 mois de période de transition, potentiellement beaucoup plus, entre la publication et l'entrée en application des différentes obligations. Et je crois que ça arrivait à la fin de la présentation. Et voilà, donc la dernière chose que je voulais proposer, c'est que donc on avait organisé donc le 3 septembre 2024 un webinaire présentation globale du règlement qui dure 3 heures, 2 heures, entre 2 heures et demie et 3 heures. La retransmission est toujours disponible, le support est toujours disponible. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, ça vous prend un peu de temps, mais on a vraiment balayé le règlement dans les moindres détails. Et un dernier point que je n'ai pas mis sur la diapositive, c'est que la commission a publié une foire aux questions, près de 200 questions auxquelles elle a répondu pour aider les opérateurs à la mise en œuvre du règlement. Et donc, il y aura donc, ils ont répondu à pas mal d'éléments. N'hésitez pas. Donc, je transmettrai donc de nouvelles diapos pour vous proposer le lien pour que vous puissiez tous accéder à cette foire aux questions si ce n'est pas déjà le cas. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur Drissi. Merci d'avoir retenu les délais parce que résumer ce règlement en 25 minutes, c'était un vrai challenge. Donc, merci. Et en effet, on ne peut que inviter nos participants à revisionner le webinaire que vous aviez organisé le 3 septembre, hein, qui permettra de rentrer dans le détail de certains sujets. Il y a quand même deux, trois questions qui reviennent autour du forum. Je me permets de vous les poser. Donc, l'idée, on comprend bien, ce forum, il va être central dans les discussions à l'échelle européenne, tant sur les actes un peu transversaux que sur les actes sectoriels, hein, sur les textes sectoriels. Mais tout le monde ne pourra pas y participer, loin de là.
Non.
Donc, j'imagine, donc il y aura, on a compris qu'il y avait un appel à manifestation d'intérêt ou à participation qui sera
Y
transmis dans
aura.
les prochains jours.
C'est.
Est-ce que derrière, ce sont plutôt les fédérations européennes, les entreprises qui seront amenées à y participer. Comment va se faire la sélection peut-être des personnes qui seront invitées à participer à ce forum? Et est-ce que aussi, au sein de ce forum, il y aura des sous-catégories ou des sous-sections par famille de produits? Parce que là aussi, tout le monde n'est pas expert sur tous les sujets. Donc, comment va se passer ce travail au niveau de chaque type de produit?
Alors, la commission va faire un appel à candidature. Donc, l'information sera diffusée de façon très large. Je pense que les principales, enfin, des grandes fédérations recevront. Nous recevrons l'info et nous ferons en sorte de la diffuser le plus largement auprès des structures françaises. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un forum global qui va être mis en place. La composition, en termes de parties prenantes, reste à la discrétion de la commission. C'est elle qui est en charge de la sélection. Nous n'avons pas du tout de pouvoir d'influence sur les choix qu'elle va faire. Elle fera ce choix-là au regard de la représentativité globale de l'industrie, disons, européenne, en ce qui concerne les industriels. Donc, ça va être un gros challenge pour elle de faire en sorte que tous les secteurs, à peu près, aient une représentation. Il y aura des représentants. Des industriels manufacturiers, mais aussi des opérateurs de la chaîne de valeur, aussi donc de la distribution, mais aussi des opérateurs de la fin de vie, donc des entreprises qui ont à gérer les déchets. Il y aura aussi le règlement prévoit qu'il y ait des représentants de la société civile, donc syndicats, chercheurs, entreprises de la seconde main. Donc, il y a vraiment une représentativité très large. D'expérience sur la constitution de ce genre d'entité, les entreprises individuelles peuvent être représentées, mais ce sera probablement plutôt minoritaire. Ce seront plutôt des fédérations qui seront invitées à participer et probablement des fédérations européennes. Il ne faut pas oublier que ce forum-là, il est européen, c'est pas un forum français. Et donc, il faut que les acteurs qui soient présents est une représentativité à l'échelle européenne. Ce forum-là va être constitué. Il y a une décision, donc la Commission a pris une décision, je n'ai pas encore eu le temps de relayer l'information. Il pourrait y avoir jusqu'à 250 membres. C'est ce que la décision de la Commission prévoit. Donc ça va être un énorme travail pour elle. C'est extrêmement stratégique, extrêmement difficile. Des choix seront faits, mais c'est la Commission qui sera en charge de le faire. Donc il y aura une structure globale. Mais il y aura aussi une déclinaison secteur d'activité par secteur d'activité. On entend bien que pour discuter de l'atelier délégué textile, ce ne seront pas forcément les mêmes représentants qui vont être mobilisés, et il y aura aussi des appels à candidature spécifiques, secteur d'activité par secteur d'activité. Mais le mécanisme restera le même, une représentativité européenne, une représentativité de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Voilà, j'espère avoir répondu au mieux.
Et vous-même, niveau français, donc vous allez organiser des consultations régulièrement ou à minima diffuser les consultations européennes, parce qu'il y aura des consultations
Bien
européennes
sûr.
pour les actes délégués, et vous-même, vous aurez besoin de vous positionner au niveau français, c'est ça?
Tout à fait. Nous, la manière dont on va s'organiser au niveau français, donc on a déjà commencé, on a un peu une liste de diffusion un peu globale pour laquelle on essaie d'envoyer des informations au maximum d'opérateurs. Donc on fait en sorte de diffuser le plus rapidement possible et le plus massivement possible certaines informations. Ensuite, on essaie de constituer ce qu'on appelle des groupes miroirs, un peu secteur d'activité par secteur d'activité. Donc on l'a déjà fait pour le secteur des textiles. On a constitué un groupe d'acteurs du secteur des textiles qui sont intéressés pour suivre donc, ces travaux-là spécifiques. On a organisé une première réunion le mois dernier. D'autres opérateurs sont intéressés, on peut encore ajouter. Hein. Nos listes ne sont pas fermées, on essaie bien sûr d'avoir accès massivement à l'information. Si vous ne recevez pas les informations, c'est que vous n'êtes pas dans nos listes, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Je mettrai aussi l'adresse mail, on a une adresse mail générique. Je réactualiserai la diapositive et je la mettrai dans la présentation.
Ok, super, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je ne veux pas prendre trop de retard, donc je ne vais pas forcément vous partager les autres questions. Peut-être que si vous avez le temps, encore quelques minutes, peut-être pouvez-vous y répondre directement dans le chat. Voilà. En tout cas, je pense que une grosse partie de ces réponses, de nouveau, de toute façon, sont dans les webinaires que vous avez organisés le 3 septembre. Merci beaucoup, Monsieur Drissi. Je vais laisser la parole à Monsieur Maillère. Donc du pôle éco-conception.
Bien, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, ben, merci pour l'invitation. Donc moi, l'objet, c'était de présenter un petit peu le process d'éco-conception, les outils. Enfin, il y avait beaucoup de choses à voir dans un temps très, très restreint. Voilà, donc juste pour commencer, nous, le pôle éco-conception, on est une association. Là, il y a une petite animation, si vous appuyez dessus, qui vous fera mieux comprendre que ce que je raconte. Ouais, parfait. Dont l'objet, nous, c'est de garantir que les produits, les services, les systèmes, quand je parle de système, c'est système, produits, services, sont plus durables par l'intégration de la pensée en cycle de vie, et donc l'application de l'éco-conception. Donc l'éco-conception qui est une méthode, mais j'y reviendrai plus précisément juste après. Et donc on travaille à diffuser, à former, développer les processus d'éco-conception, et on travaille main dans la main, notamment avec l'ADEME, à la fois au niveau national, pour mettre en œuvre des programmes, des outils, des méthodes, participer à la normalisation, en particulier à l'étude dont on a pu voir les résultats tout à l'heure sur la maturité, le baromètre de maturité sur l'éco-conception, mais pas seulement. Et donc voilà, on intervient activement au niveau national et puis aussi en région dans des programmes d'action. Alors, pour aller précisément, c'est quoi l'éco-conception? Il y a un certain nombre de principes, j'ai pas le temps de tous les présenter, on va commencer sur la diapo suivante, sur le premier que j'ai déjà un petit peu discuté auparavant, c'est un principe de cycle de vie, c'est-à-dire qu'on va travailler sur l'ensemble des étapes du cycle de vie d'un produit ou d'un service, de l'extraction des matières premières, en passant par la fabrication, le transport, en comprenant bien que le transport, on l'a positionné là, mais on va le retrouver un petit peu partout. L'usage, on a parlé tout à l'heure de produits consommateurs en phase d'utilisation dans la présentation qu'a fait Idriss, la gestion fin de vie. Et en amont de tout ça, si vous voulez, on va avoir le développement du produit, du service. C'est là où on a le maximum de degrés de liberté pour diminuer l'impact environnemental. Et ce, plus tôt on le fait dans ce processus-là. D'ailleurs, dès les phases de marketing design, on a plus de degrés d'amélioration. Le deuxième point, et ça a été abordé rapidement sur l'empreinte, si vous pouvez voir, c'est que l'éco-conception est multicritère. C'est-à-dire qu'on travaille effectivement le changement climatique, l'effet de serre, Mais pas uniquement. Donc là, je vous ai positionné 8 indicateurs qui sont les plus usités. Et pour ceux que ça intéresse, c'est ceux qui sont traités dans un outil d'évaluation qui est proposé par l'ADEME de manière gratuite, qui est le bilan produit. Donc on va retrouver par exemple la toxicité, l'ozone troposphérique, c'est les pics d'ozone qu'on peut avoir régulièrement dans les villes, la consommation de ressources rares, la consommation d'énergie, le changement climatique, l'écotoxicité, l'acidification, mais on a jusqu'à 21 catégories d'impact. Et tout ça, eh ben, ça peut être normalisé dans le cadre de l'ESPR, dans le cadre du PEF, donc le Product Environmental Footprint, où on va sélectionner les indicateurs, les ad hoc, en fonction des typologies de produits. Donc, sans rentrer dans le détail, on va dire l'éco-conception, c'est une approche multicritère, multi-étapes, et on va travailler à piloter les transferts de pollution d'une étape du cycle de vie à une autre, ou d'un indicateur d'impact à un autre. Alors, si on peut juste voir les étapes du projet, parce que comme je vous disais, vous entendez sans doute parler. Ah, j'avais ça aussi. Il y a plusieurs degrés, c'est pas grave. Je reviendrai sur les étapes juste après, juste pour qu'on comprenne que l'éco-conception, c'est voilà, c'est il y a différentes manières de l'appréhender en fonction des ambitions de l'entreprise. Donc, on a vu qu'il y a des textes réglementaires, c'est un minimum. Mais si on va plus loin, ben, il y a l'amélioration du produit, c'est faire la même chose avec moins d'impact sur l'environnement. Il y a la reconception là, du produit de A à Z. Il y a l'innovation fonctionnelle, c'est-à-dire on remet en cause la manière de répondre aux fonctions, voire on requalifie le cahier des charges fonctionnel. Et on a l'innovation de système qui va être plutôt on va dire la création de nouveaux modèles économiques. Donc, on va parler d'économie du partage, d'économie de fonctionnalité ou de système produit-service, par exemple. Bon, j'ai pas le temps d'entrer plus dans le détail, mais selon le type d'ambition, bah voilà, vous pouvez faire de la même chose avec moins ou innover sur votre process. Et donc, les étapes de la démarche, parce que, comme je disais, c'est pas un principe, l'éco-conception, c'est bien une démarche. On peut voir la diapo juste après, merci. De manière schématique, ce sont les suivantes. C'est le cadrage du projet, c'est savoir mesurer son niveau de maturité, ce sur quoi on veut travailler, le projet, allouer les ressources qu'on veut y mettre. Deuxième étape, c'est évaluer le système de référence, c'est-à-dire faire l'évaluation initiale dont l'objectif est d'identifier les aspects environnementaux significatifs et maîtrisables et importants pour l'entreprise sur laquelle elle veut travailler. La troisième étape, ça va être la recherche de solutions. Celle qui va suivre, ça va être la sélection de la solution qu'on va vouloir développer. C'est-à-dire qu'en étape C, on va avoir plusieurs scénarios de conception et on va en sélectionner un qu'on va comparer dans l'étape 5 à l'évaluation de référence qu'on a vue dans l'étape B. Donc, pour vérifier ben, que la solution nouvelle est bien meilleure que l'ancienne. Et la dernière, ben, c'est la communication, l'information. Alors, vous l'avez vu, la communication, l'information, c'est pas une obligation, si vous voulez, normativement. Mais vous l'avez compris que dans le SPR, la transparence et la communication va être une chose importante et obligatoire. Alors, j'ai pris un petit exemple d'un projet qui date un peu, puisqu'il a quelques années, mais il est relativement simple. C'était le projet d'une reconception d'une doudoune chez Decathlon. Donc, voilà, une doudoune voilà, chez Forclaz, qui est développée à Passy, en Haute-Savoie. Et donc, ils ont fait une évaluation environnementale initiale. Et là, ils ont vu que leurs aspects environnementaux principaux étaient la matière et l'ennoblissement, c'est-à-dire la teinture, principalement. Et donc, si on regarde après comment ils ont mis en place, c'est la diapo juste après, j'essaie d'aller vite pour aller jusqu'au bout de la démarche. Oui, ils ont refait la démarche complète, excusez-moi, c'est juste après, c'est un peu redondant. Les solutions qu'ils ont trouvées, donc il y a eu pléthore de solutions. Je vais juste vous présenter la solution finale qu'ils ont sélectionnée. Bah, tout d'abord, ils ont pris on va dire, un isolant en polyester qui est d'origine recyclée. Ils ont utilisé du polyester pour, on va dire, celui dont je vous parle qui est recyclé, c'est celui qui fait la forme d'isolant, mais celui qui couvre en fait le produit, qui est le tissu, il est avec une solution d'Opdyne qui était relativement innovante à l'époque puisque c'était peu ou pas utilisé. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter un tissu écru qu'on va teindre, on va plutôt utiliser des bobines de fil qui sont déjà teintes dans la masse, ce qui évite, justement toutes les pollutions de l'ennoblissement. Et puis l'autre chose, c'est si vous voyez à l'intérieur de la veste, dans lequel il y a toute l'information d'ailleurs sur le produit, elle est grise. Elle est grise pourquoi? Parce qu'il y a uniquement un fil sur deux qui est teint. C'est-à-dire que, on le voit dans Chaîne et Trame qui est juste au-dessus, vous voyez Color by Dope Dye Yarn. On voit des fils blancs et des fils bleus, mais en fait, en réalité, c'est un fil noir et un fil blanc, ce qui fait la couleur grise. C'est-à-dire qu'en plus, on n'utilise qu'un fil sur deux qui est teint. Et au-delà de ça, ben voilà, ça amène un résultat. C'est 40% de moins d'impact par rapport à l'ancienne doudoune sur l'eutrophisation, sur les particules fines, sur le changement climatique, c'est 24%, et on améliore de 6% sur les problématiques de matière. Donc on a une doudoune qui est éco-conçue. Alors je vous ai pris cet exemple-là pour vous montrer qu'on est quand même sur un produit qui sort à 35 euros. On n'est pas uniquement sur des produits haut de gamme liés à des gens qui ont vraiment les moyens d'acheter. Il y a des grandes marques type Patagonia qui font aussi des projets d'éco-conception aussi sur les doudounes, mais on n'est pas du tout sur le même montant. C'est-à-dire que l'éco-conception peut être appliquée à tout type de produits et puis aussi dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on peut aussi, nous on travaille avec des grandes entreprises type Safran ou autres, où on va éco-concevoir des sous-ensembles qui vont pouvoir participer à la production d'un moteur ou d'autres choses. Donc voilà, ça s'applique partout. Et donc pour terminer et pour aller plus loin, là on a vu un exemple, on va dire d'éco-reconception sur le premier, parce qu'on continue à faire une doudoune avec des qualités fonctionnelles équivalentes, on ne remet pas en cause un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on substitue, on modifie les procédés de production, on a un petit peu de circularité dans la matière et on a quelques procédés innovants. Decathlon fait aussi des projets. Celui-là, on n'a pas participé sur celui-là, mais je tenais à le montrer parce qu'il me semble vraiment intéressant. C'est des projets. Donc là, ils font. Alors, je crois que c'est 2000 produits, je crois à chaque fois. Enfin, c'est vraiment des tests. Et ils ont essayé avec minimal de faire des produits textiles 100% produits en Europe. Pour ce faire, eh ben, on a du textile polyester qui est issu du recyclage, puisque voilà, on ne produit peu ou pas de textile, on va dire de première génération. Donc on fait du recyclé. On travaille sur des formes qui sont intemporelles, sur des couleurs intemporelles. On diminue au maximum les coutures. Donc là, je prends la veste, le kawaii, vous voyez là, c'est de l'induction, donc c'est collage par induction. Et on a très très peu de, comment le dire, je trouve plus mes termes, de couture. Je crois qu'il y en a quasiment pas. Il y a juste un zip et c'est un zip de haute qualité. Donc c'est un YKK pour ceux qui connaissent. Donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes types de zip qu'on peut avoir dans des produits à bas coût. Et ils sont réparables, etc. Donc voilà, on peut aller encore plus loin dans ce type de produit. Donc, juste pour vous montrer un petit peu la gradation entre la doudoune qui était éco-conçue et des projets plus innovants encore sur la manière fonctionnelle de répondre et le modèle économique avec les fournisseurs. Et donc, il y a des dispositifs. Là, je fais porte-parole notamment de l'ADEME. Donc nous, on travaille au niveau de l'Europe pour l'éco-conception dans différents pays avec différents autres éco-design hubs en Europe. On a quand même la chance en France d'avoir du soutien et du soutien financier sur les projets. Et donc aujourd'hui, ce sont principalement des fonds qui sont des fonds de l'ADEME. Et donc, je peux pas rentrer dans tout le détail. Je vous enverrai, si besoin, des liens pour voir tout ce qui est disponible. Mais il y en a trois grands types. Vous êtes une PME, vous savez pas où vous en êtes, vous n'avez pas beaucoup de moyens. Il y a le diagnostic tremplin, c'est un chèque de 5 000 euros de soutien pour un accompagnement de 5 à 9 jours par un consultant extérieur. Okay, donc ça c'est relativement simple, ça passe par la plateforme Agir de l'ADEME, il faut déposer le devis, c'est validé par l'ADEME et vous pouvez engager, vous avez 18 mois pour engager et réaliser le projet. Ensuite, vous pouvez faire des diagnostics plus approfondis. Donc, c'est des diagnostics qui sont opérés par l'ADEME, qui a, pas opérés, excusez-moi, par BPI, sur des fonds ADEME. Et donc, il y a un pôle de consultants qui sont disponibles, qui sont, entre guillemets, accrédités pour pouvoir réaliser ces diagnostics. Là, c'est un format qui est fixe, c'est 18 jours avec un certain nombre d'étapes et dont la donnée de sortie, c'est un cahier des charges d'éco-conception. Donc, c'est 18 jours d'accompagnement et la subvention, elle va, donc c'est toujours réservé aux PME, elle va varier entre 60 et 70% selon le nombre de salariés. Si vous êtes en dessous de 50 salariés, au-dessus de 50, et c'est complètement administré par les services de la BPI. Donc, vous tapez diagnostic BPI sur Internet, vous tomberez sur la plateforme qui gère tout ça. Après, si vous avez des projets qui sont plus spécifiques, il y a la possibilité de faire, entre guillemets, ce que j'appelle du gré à gré. Et donc là, en général, c'est une discussion avec les services de l'ADEME en région pour discuter d'un projet et on peut avoir des financements. Alors, j'ai mis 80%, mais en fait, c'est 80% sur les dépenses internes. Mais on a une variable qui est rediscutée, on a entre 50 et 70% des dépenses extérieures. Et donc là, souvent, c'est un échange préalable, c'est un dossier spécifique à déposer, et c'est aussi une subvention, mais ça peut être une subvention qui va jusque dans la mise en œuvre. Et au-delà de ça, il peut y avoir, et je crois que ça va être reconduit en 2025, mais on attend un petit peu la réponse, il peut aussi y avoir des subventions sur investissement, c'est-à-dire que l'ADEME peut financer les surcoûts d'investissement qui sont liés à un projet d'éco-conception. Ben, tout ça pour vous dire qu'on a des dispositifs financiers, on a des outils publics. Pour faire l'évaluation, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, tels que le bilan produit et la base impact qui sont en train d'évoluer. On a des méthodes de calcul qui sont proposées avec l'empreinte projet. Tout ça est public et est disponible. Après, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, alors juste pour information, ces diapos suivantes, je vais essayer de vous mettre les liens dans le chat juste après. En France, il y a une norme qui décrit le processus d'éco-conception. Et juste pour information, elle est en cours de, elle passe au public, c'est-à-dire qu'elle est disponible gracieusement actuellement et vous pouvez faire remonter vos commentaires. Donc, c'est un bon moyen de récupérer déjà la première version pour en avoir une idée. Elle est disponible jusqu'au 25 décembre, qui est la date de la consultation, qui va reprendre l'éco-conception. Ses principes et les différentes étapes. Donc ça, c'est plutôt une méthode cadre d'éco-conception qui peut après s'appliquer sous différentes normes d'éco-conception. Par exemple, il y a une norme mécanicienne européenne d'éco-conception qui rentre tout à fait dans ce cadre-là. Et les indicateurs, par exemple, de suivi d'éco-conception tels que développés dans le cadre du CNCNELEC, qui sont peut-être pris dans le cadre de SPR sur les indicateurs de durabilité, recyclabilité, etc. C'est aussi des choses qui sont compatibles avec ce process d'éco-conception. Sur la partie outils, donc des outils, il y a différents types d'outils. Il y a des outils permettent de sensibiliser, il y a des outils qui permettent d'évaluer, il y a des outils qui permettent de faire de la créativité. J'ai pas le temps de tous les discuter, donc c'est pour ça que je vous ai fait un lien vers juste avant le MyGreen Mag. Il y a un certain nombre d'outils qui sont présentés. Donc, si vous voulez le télécharger, vous aurez une vision plus complète de ce qu'il existe actuellement. C'est loin d'être exhaustif, mais les grandes catégories d'outils en fonction des besoins sont présentées au moins à l'intérieur. Voilà, j'essaie d'être bref et de rester dans le timing. J'espère que j'ai réussi.
C'est parfait. Merci beaucoup, Monsieur Maillère. Donc, c'est vrai que pour plus d'informations, le mieux, ça sera directement d'aller sur le site internet, hein, j'imagine, du pôle éco-conception et aussi sur les sites internet de l'ADEME. Donc, si vous avez la possibilité de mettre quelques liens dans le chat, ça sera parfait. Comme le temps passe, on va enchaîner avec nos deux entreprises et je vais laisser la parole à Madame Charbonnier de Saint-Gobain pour nous parler de la démarche qu'ils ont entrepris, que l'entreprise a menée depuis déjà pas mal d'années. Madame Charbonnier, la parole est à vous.
Merci, bonjour à tous. Chez nous, en effet, ça fait des années et des années qu'on a entrepris une démarche d'éco-conception. Donc moi, je travaille pour les activités plâtre et isolation de Saint-Gobain en France, donc placo et isover notamment pour les marques les plus importantes. Et chez nous, la durabilité, elle est clairement au cœur de la stratégie d'entreprise. Elle est prise en compte dans la totalité de nos projets d'innovation. Quels que soient les projets d'innovation, donc tout à l'heure il y avait un petit graphique avec les quatre types d'éco-conception. En effet, nous, que ce soit de l'amélioration incrémentale ou des innovations de rupture, que ce soit des innovations liées au, enfin tirées par à une modification de production, à une création de boucles de fin de vie, tout est pris en compte dans le cadre de ces innovations. Donc, et la durabilité, on l'analyse ou on la prend en compte dès la phase d'idéation, la phase d'exploration des différentes solutions, et on utilise l'analyse de cycle de vie jusqu'à l'industrialisation de l'idée. Et chez nous, la durabilité, ça revêt plusieurs formes. Donc, on a les sujets énergie carbone, les sujets ressources et circularité, dans lesquels il y a aussi les sujets liés à l'eau. Et puis, il y a aussi des sujets qui sont moins environnementaux et plus en lien avec l'humain, qui sont tout ce qui est sécurité, santé sur le lieu de travail, y compris pour nos collaborateurs et nos clients qui posent les matériaux. Et puis, pour aller au bout de la chaîne, tout ce qui est santé et bien-être pour les occupants des bâtiments qui sont construits avec nos matériaux. Il y a une équipe dédiée pour ça, donc vous la voyez là, cette équipe. Dans cette équipe, il y a un quart de l'équipe qui travaille sur les analyses de cycle de vie et qui fait les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, qui sont les documents normés, qui sont publiés vérifiés par tierce partie d'abord, puis publiés dans la base INES. Aujourd'hui, on dispose pour Placo Isover d'un peu plus de 600 FDES, qui sont des FDES soit produits, soit système, c'est-à-dire que on se contente pas de faire juste la plaque de plâtre, on fait l'analyse de cycle de vie et on produit la fiche de déclaration environnementale et sanitaire, par exemple, pour la cloison complète, donc la plaque, l'isolant, le rail et les montants ainsi que les vis qui composent la cloison, ce qui permet aux architectes et aux bureaux d'études d'avoir des choses qui sont déjà très avancées et d'intégrer ça dans leurs calculs. On a à peu près 80% de notre chiffre d'affaires qui est couvert par ces fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Et grosso modo, on fait 200 analyses de cycle de vie par an, qui ne débouchent pas toutes sur une FDES. En gros, sur les 200 analyses de cycle de vie, il y a à peu près 140 FDES qui sortent, qui sont soit des renouvellements, puisqu'une FDES a une durée de vie de 5 ans, soit des nouveaux produits ou des nouveaux systèmes. Le reste, c'est de l'éco-conception. Donc, c'est des analyses de cycle de vie pour comprendre l'impact d'une nouvelle idée, l'impact d'une évolution. Voilà. Et donc, tout le rôle de l'équipe que vous voyez là, au-delà même de l'équipe qui est spécialisée dans les analyses de cycle de vie, c'est de mesurer, comprendre et faire des propositions pour agir et faire évoluer les choses positivement. Donc, bon, ça a été dit il y a 2 minutes, mais la méthode qui est utilisée, c'est une méthode scientifique d'évaluation des impacts environnementaux. Elle est multi-étapes et multi-critères. Et on l'utilise pour des projets d'éco-conception produits-systèmes, pour des projets de nouveaux approvisionnements, parce que parfois c'est contre-intuitif, mais typiquement dernièrement on a changé d'approvisionnement, on avait certains types de liants qui venaient de Corée et on les a rapatriés au Danemark. Et bizarrement sur l'impact carbone, on n'a rien gagné du tout, parce que quand ça arrive de Corée par gros bateau, finalement l'impact environnemental ou l'impact carbone précisément est moins important que quand ça descend du Danemark par camion, par exemple. On travaille aussi sur la modélisation des nouveaux business models en termes d'ACV, parce que quand on travaille sur des nouveaux business models ou de nouveaux investissements industriels, en général, on s'embarque pour 20 ou 30 ans. Et ce serait bien qu'on ne se trompe pas lorsqu'on investit des sommes assez importantes dans ces projets-là. On peut passer à la slide d'après. Du coup, je vous ai mis un exemple d'éco-conception qui est très récent. C'est pas une éco-conception sur notre produit qui est en l'occurrence ici des isolants à base de laine de verre, mais c'est une éco-conception sur son emballage. Et on avait des anciens emballages pour lesquels on avait une analyse de cycle de vie très précise. Donc on savait exactement quels étaient les enjeux. Aujourd'hui, nos emballages tout jaunes là que vous voyez en haut, ces emballages qui étaient officiellement recyclable, mais absolument pas recyclé, parce que le PE coloré n'a absolument pas de valeur et donc les collecteurs ne se donnaient pas la peine de le sortir. Il n'avait pas de contenu en recyclé et on avait une collection de types de d'emballage dans nos usines. On avait minimum 10 références. Donc il fallait en gérer les chutes. Évidemment, à partir de l'évaluation environnementale qu'on a faite, on a recherché quelles étaient les pistes d'éco-conception. On en avait un certain nombre. Et puis ensuite, on a pris la décision d'aller vers les emballages que vous voyez dessous. Alors, c'est assez compliqué de vous présenter des emballages transparents parce que fatalement, on les voit pas. Néanmoins, c'est bien le résultat. On est parti sur des emballages qu'on a étirés. Donc, on a une consommation de PE de 4% en moins. On a des emballages qui, comme ils sont transparents, sont recyclables et recyclés parce qu'ils ont une valeur pour les collecteurs. Comme on a créé les boucles de récupération des emballages transparents, ben maintenant nos fabricants d'emballages peuvent nous fournir un produit avec 30 à 50% de contenu en recyclé et on va aller plus loin. On a des émissions de CO2 réduites et puis en usine, j'ai plus qu'une seule référence d'emballage, ce qui fait que bah, j'ai nettement moins de chutes, il y a beaucoup moins de manipulations, il y a moins d'arrêts de ligne, et donc au final, on est entièrement gagnant. Ces emballages, ils ont été éco-conçus et co-conçus sur la photo que vous voyez là en tout petit. Bah, il y a nos équipes qualité, marketing, achat, nos clients, nos fournisseurs et tout le monde, et l'équipe développement durable, évidemment, l'équipe marketing, tout le monde a fait ses ateliers de prototypage ensemble. Et c'est au moment des ateliers de prototypage qu'on a décidé, à partir de toutes les pistes d'éco-conception qu'on avait, où est-ce qu'on irait. Voilà. C'est un exemple qui illustre, je pense, relativement bien ce qui a été présenté il y a 2 minutes dans les ateliers.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Peut-être juste une simple question. Donc là, pour l'instant, vous n'êtes pas parmi les premiers secteurs prioritaires dans le cadre du règlement ESPR. Donc, ce qui veut dire que toutes ces démarches-là, vous les avez entreprises de façon volontaire. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner, notamment par l'ADEME, puisque c'est un peu aussi le sens de l'intervention précédente?
Alors, on est accompagné par l'ADEME pour un certain nombre de choses, mais pas pour nos ateliers d'éco-conception. L'ADEME nous accompagne sur nos grands projets de décarbonation, sur nos grands projets d'économie circulaire, mais ne nous a pas accompagnés, on les a pas sollicités sur nos projets d'éco-conception jusque-là.
D'accord, donc vous avez vraiment intégré l'équipe en interne et c'est vraiment du travail interne.
Tout à fait, c'est du travail interne, oui. Et je vois qu'il y a une question sur les acévistes. C'est une équipe interne, on ne passe pas par de prestataires extérieurs. Les seuls prestataires extérieurs qu'on ait sont nos vérificateurs qui sont agréés. Et sinon, les acévistes, ils sont chez nous.
Parfait, merci beaucoup. Donc là, on avait l'expérience d'un grand groupe quand même, hein, et donc on voulait aussi partager l'expérience d'une plus petite structure. Et donc on a proposé à Promode d'intervenir. Et je vais laisser la parole à Benjamin Tessier.
Moi, je suis Benjamin Tessier, je suis chef de projet qualité et développement durable chez Promode. En introduction, je vous ai mis la photo du créateur de Promode, Monsieur Francis Charles Paulet, qui l'a créé en 1975. Donc, on va bientôt fêter nos 50 ans l'an prochain. Et l'entreprise a été reprise par son fils en 2018, donc juste avant le Covid, dans une période un petit peu compliquée. J'en parle parce que c'est un petit peu l'objet de la transformation de Promode, qui aujourd'hui se dirige plus vers le retail responsable sur mesure, le moins mieux et durable. Donc, vraiment un virage qui a été fait entre bah, l'ancienne façon d'acheter, qui était quand même très volumétrique, très linéaire, où on est passé plutôt sur un business plus précis et plus circulaire avec Julien Paulet, qui est arrivé il y a maintenant 6 ans. Donc rapidement, les valeurs de Promode, ça va être le côté désirable avec un style néo-bohème, une accessibilité des produits et beaucoup d'engagement sur la partie durable avec des initiatives Promode for Good, entre autres, qui ont été créées en 2018 pour l'arrivée de Julien Paulet. Donc avec la RSE qui est au cœur de Promode, donc sur les sujets sociétaux, où aujourd'hui on a une marque au service de toutes les femmes, que ce soit les femmes qui sont les clientes, celles qui travaillent pour Promode ou encore chez nos fournisseurs. De fortes notions environnementales aussi, dont je vais parler après, et les nouveaux business qui vont aussi s'inscrire dans la stratégie d'éco-conception ou de réduction, en tout cas de beaucoup de taux de perte, où on va créer de la production à la demande, des kits de couture, de la seconde main, qui sont un petit peu les nouveaux business de Promode depuis à peu près 5 années. Alors le pôle éco-conception, on parlait un petit peu des différents impacts qu'il y avait. Moi, j'y ai ajouté aussi la partie des étapes de vie pour montrer entre guillemets que sur toutes les étapes de cycle de vie et tous les types d'impact qu'il peut y avoir, il y a de l'impact un petit peu partout. Alors il y en a beaucoup plus qui sortent, on va dire, au niveau de l'amont, au niveau de la récolte, de la fabrication, de la confection des produits, plus entre guillemets peut-être que sur les étapes d'utilisation et de fin de vie. Mais les impacts, faut se dire qu'il y en a aujourd'hui partout. Donc il faut aussi éviter, quand on fait de l'éco-conception, d'avoir les effets rebonds. On va baisser une impact et puis on va l'augmenter sur un autre critère ou sur une autre étape. Et ça, c'est quelque chose qui est très important en éco-conception, c'est de pas transférer les impacts d'un endroit à un autre pour avoir à la fin une impact qui va être ISO, voire peut-être même moins bonne. Le contexte est l'axe pour l'éco-conception. C'est entre guillemets pour promouvoir, c'était une urgence climatique puisqu'il y a beaucoup de rapports qui sont en train de tomber. Il y a une pression réglementaire puisque le textile est lui dans les types de produits qui sont prioritaires pour intégrer tout ce qui va être affichage environnemental, projet d'éco-conception. Il y a une attente citoyenne et médiatique qui est très importante, beaucoup beaucoup de reportages et l'émergence du mode durable avec des entreprises qui ont changé, qui sont arrivées ou qui ont changé de business model, d'où l'importance aujourd'hui de pouvoir s'adapter et de faire attention à ce qu'on fait pour l'homme et pour la planète. Donc aujourd'hui, en 2018, Julien Paulet a créé l'initiative Promote for Good, qui est basée vraiment sur le moins mieux durable avec un label interne, le fait d'intégrer 20 à 25% de fibres dites mieux disantes ou moins impactantes. On a intégré aussi les nouveaux business comme la précommande, les kits. On a fait de la sensibilisation au niveau des fournisseurs et des collaborateurs. Avec comme ligne de vue, on peut faire le gouvernement français qui doit mettre un décret en place pour fin 2024, avec certainement, je pense, un petit peu de retard. Et en fait, tout ce retard qui a été accumulé, il a donné envie, entre guillemets, à Promode de créer une initiative qui était du coup l'éco-conception, d'où un besoin interne de chez Promode avec des convictions pour engager l'entreprise et les équipes de conception Promode en priorité sur l'éco-conception, pour pouvoir vraiment faire la transition entre les deux. Donc l'éco-conception, oui, c'est bon, merci. On peut passer à la suivante. Donc l'éco-conception, elle a été créée par 6 personnes que vous pouvez voir ici. Donc il y a des personnes qui travaillent à la qualité, il y en a des personnes qui travaillent au développement durable, à la RSE, il y a une styliste, il y a aussi une modéliste. Donc c'est 6 personnes qui vont complètement volontaires au départ pour pouvoir définir un cadre un petit peu limité d'une fiche par étape de cycle de vie pour donner des bons conseils. Et en fait, ce projet a pris de plus en plus d'ampleur. On a déjà commencé par donner la définition, on peut faire un petit clic sur la présentation, qui est d'intégrer les aspects environnementaux dès la conception du produit sur l'ensemble de son cycle de vie pour réduire son impact, assurer sa recyclabilité et sa durabilité dans le temps et garder la fonction d'usage. Il fallait pas transformer un pantalon en shirt ou des choses comme ça, forcément, automatiquement, on se retrouve avec des soucis. Alors, je regarde les questions, je ne sais pas si je répondrai après, mais je pense pas qu'il y ait des questions par rapport à moi. Alors, pourquoi on l'a fait? C'était pour se préparer à l'affichage environnemental et aux autres règlements comme le SPR, et aussi de pouvoir donner des liens et les leviers les plus impactants avec des pondérations différentes pour nos concepteurs, pour que eux commencent à avoir ce réflexe automatiquement de penser éco-conception à chaque fois qu'ils développaient un nouveau produit. On l'a fait comment? On l'a fait aujourd'hui en intégrant et en échangeant avec des confrères pour connaître leurs best practices et partager aussi les nôtres avec des gens comme Decathlon, comme Petit Bateau ou autres, des acteurs importants. On a utilisé un logiciel d'ACV, on n'a pas utilisé de prestataire, on a utilisé un logiciel d'ACV pour connaître les meilleurs leviers. Et on a aussi gardé sur cette partie éco-conception interne, du coup, c'est pas de l'éco-conception entre guillemets normalisée à 100%, des convictions pro-mode pour une mode qui soit moins impactante pour notre secteur. Si on rentre directement du coup dans la méthode, il s'agit en fait d'une grille Excel qui a été créée, qui est disponible en open source. Donc si vous allez sur le site Promode, sur la partie mode durable, il y a une partie éco-conception où vous pouvez demander et le pôle éco-conception vous enverra un mail avec la possibilité d'échanger sur cette grille pour pouvoir faire des essais. Donc c'est un outil Excel qui a un calcul automatique qui va venir à chaque fois qu'on va répondre à une des questions, modifier une composition, donner un score d'éco-conception et qui viendra nous dire si le produit il est éco-conçu, s'il est bien pensé ou s'il y a encore un gros effort à faire dessus. Il y a une trentaine de critères avec 6 critères qui sont obligatoires comme des tests qualité qui doivent être OK, interdiction sur aucun des exports de faire de l'avion pour la partie transport, interdiction de ne pas avoir au moins une technologie waterless pour la partie délavage, une perte matière qui doit être maximum de 20%, donc une efficience à 80%, une partie de tissu Promote for Good minimum de 20%, c'est-à-dire les fibres moins impactantes, et un audit social qui soit acceptable sur le référentiel ICS. Avec des questions bonus, avec également des objectifs qui ont été fournis par produit. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque saison, chaque acheteur, donc famille de produits, doit développer 3 produits. Maintenant, c'est 4 d'ailleurs sur la saison 2025. 4 produits éco-conçus sur sa famille de produits. Et ça rentre dans les objectifs directement de mission des acheteurs, qui fait partie un petit peu aussi des leviers qui permettent de faire vivre et de faire appliquer cette éco-conception. On va passer à la slide suivante avec un exemple d'un produit Tristal qui a été le premier à être éco-conçu. Alors, il y a une petite erreur au niveau du coton puisque c'est de la viscose. Mais aujourd'hui, on a pris un modèle qui était très simple, qui était un débardeur avec des bretelles en dentelle. Et on a repensé l'éco-conception avec le groupe éco-conception, pas avec la famille directement, que c'était le premier produit éco-conçu. Et en fait, on est passé sur des produits Promote for Good en fibre avec beaucoup plus également d'efficience, c'est-à-dire qu'on a changé la laisse du tissu pour pouvoir mieux optimiser le placement et on a changé aussi la carcasse du produit. On est passé sur une filature et un tricotage en France, une teinture en Italie, une confection qui est passée du grand import au proche import en Tunisie. Et on a optimisé aussi d'autres éléments pour avoir un résultat d'éco-conception à 71%, qui est vraiment le seuil minimum, puisque c'est 70. Et on a permis une meilleure recyclabilité, des fournitures qui étaient limitées, puisqu'il n'y a pas de fourniture sur ce produit. Et voilà, tous ces produits peuvent être, ils sont disponibles sur le site Promode, et il y a moyen de demander également la grille. On peut passer à la slide suivante. Donc, en conclusion et sur les bénéfices, aujourd'hui, c'est une démarche qui est automatique en conception au quotidien pour tous les acheteurs, les chefs de produits, les stylistes. Et on a une communication et une transparence qui sont accrues sur les choix et sur les impacts de conception. Et tout ça au service des réglementations qui sont à venir, donc sur l'affichage environnemental, hein, qui est le palier supplémentaire sur la partie impact, durabilité physique et non physique, et également sur les réglementations qui sont le SPR et le DPP qui sont à venir, donc sur la partie label, microfibre, recyclage, énergie renouvelable ou encore d'autres éléments. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre à ta Promode de faire la transition vers les réglementations et aussi vers des impacts qui soient moins impactants pour la planète.
Merci beaucoup, monsieur Tessier. Peut-être juste une question. Aujourd'hui, quelle est la part de vos produits, de vos références qui ont fait l'objet d'une telle démarche d'éco-conception?
Alors, en termes de réalisation, il y a à peu près 7 ou 8% des références et à peu près 10% des volumes chez Promode. En termes d'essais, c'est beaucoup plus. Après, la démarche, elle est globale sur tous les produits. C'est que ces formations, elles ont permis de repenser à chaque fois qu'on fait un nouveau produit, comment le faire mieux. Il n'est pas forcément éco-conçu, mais il est mieux conçu. C'est comme ça que je le présenterai.
D'accord. Et en termes d'augmentation, parce que ça fait partie des questions là qui viennent dans le chat, en termes d'impact sur le prix du produit, est-ce qu'à chaque fois, vous constatez un impact dans un sens ou dans un autre?
Alors, on a majoritairement des impacts qui sont à peu près ISO. Aujourd'hui, alors faut oublier le fait que le prix du coton augmente, le prix actuellement du transport augmente aussi. Mais si on prend les autres paramètres ISO qui sont des augmentations automatiques, on est plutôt sur des choses ISO. Il y a de temps en temps forcément des augmentations, mais il y a aussi un ou deux cas où on arrive à même obtenir des baisses de prix d'achat sur les produits. Donc c'est pas une démarche qui aujourd'hui fait beaucoup gagner d'argent, mais c'est pas une démarche qui en fait forcément perdre non plus.
Ok, bah écoutez, parfait, merci beaucoup. On va peut-être s'arrêter là parce que le temps a filé. Juste pour les gens qui souhaitent accéder, parce que ça fait partie aussi des questions à la grille là que vous nous avez montré, il faut vous prendre contact avec vous, hein, directement via le site internet de Promode, hein, c'est ça?
Je vais mettre le lien sur le chat et en fait il y a juste un clic à faire sur le site de Promode pour pouvoir demander. Ceci. Et je vais le mettre sur le chat avant que ça raccroche.
Bon, parfait.
Mais
alors, je vais vous laisser le temps de le faire. En tout cas, voilà, nous, on était ravis d'organiser ce webinaire. C'est vrai que le règlement éco-conception va sans doute constituer une vraie révolution pour beaucoup d'entreprises en matière de conception et puis plus globalement, probablement, en matière de développement de nouveaux business models. Hein, vous l'avez évoqué rapidement les deux dernières intervenants. C'est vrai que voilà, au-delà du produit, il y a toute la démarche servicielle qui commence à se développer en termes de réparation, réemploi dans beaucoup de secteurs. Et donc voilà, tout ceci est une vraie révolution qui va s'ouvrir pour l'ensemble des produits de consommation. Donc voilà, nous c'est vrai qu'on attend globalement beaucoup quand même de ce règlement pour améliorer encore une fois la performance environnementale de produits, essayer de différencier les produits en fonction de leur qualité et offrir aussi aux entreprises eh bien des capacités à innover, à se différencier de la concurrence et bien sûr faire progresser les enjeux environnementaux. Enjeux environnementaux qu'on abordera à l'occasion de d'autres prochains webinaires de l'Académie du MEDEF. Et on va remercier Laure pour son premier webinaire. Tout s'est très bien passé et donc on vous dit à tous à très bientôt. Et encore une fois, grand merci pour les différents intervenants. Et donc on vous tiendra informé de la mise en ligne à la fois du podcast et des présentations. Bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Vous avez des questions liées à cet enregistrement? Rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr.